Écran radiophonique vous présente un scénario original de Jean-Pierre Junier. Simara. Mise en scène production Jean-Pierre Junier. Attention, l'écran radiophonique est une marque déposée et ne peut être utilisée sans l'autorisation du propriétaire. Les œuvres qui sont sur cette marque sont la propriété de l'auteur. Mais tu ne sais même pas où c'est. Où est la corve? Je ne sais. Alors, ils vivent dans une corve, mais je ne sais où. Gilles est triste. Elle lui dit, mais ne sois pas triste. Il vient tous les jours ici. Il ne te reste plus qu'à te reposer et attendre sa venue. T'en es sûr? Oui. Pierre vient passer la journée ici. Il a la clé. Gilles pleure. Il n'aurait jamais pensé retrouver ici Pierre. Si tu n'étais pas parti, tu l'aurais retrouvé depuis longtemps déjà. Mais Dieu vous protège, il lui dit. Comment est-il? Il semble normal, mais j'ai pas connu avant. Il n'est pas malade. Gilles, les larmes aux yeux, lui dit, merci. Tu es toujours aussi bonne. Tu es mon ange. Elle sourit, lui dit, tu parles d'un ange qui s'est trompé à aider le démon, comme tu dis. Qu'est-ce que tu crois? Est-ce que tu crois qu'il est le démon? Ou simplement un homme démoniaque et sadique? Gilles a fini sa soupe et lui demande, t'en veux encore? Non, merci. Il est épuisé et heureux. Et lui dit, faut t'allonger maintenant sur le divan. Ou sur le lit si tu veux. Il lui dit, divan me suffit. Alors bonne nuit. Elle le laisse. Aussi, elle est épuisée. Gilles s'allonge sur le divan. Il y a une couverture. Il est seulement habillé d'un peignoir. Mais il fait chaud. Avant de s'endormir, il se dit, ça fait si longtemps que je n'ai pas vu Pierre. Oh. Passe une nuit agitée, se réveille plusieurs fois, tellement elle a hâte de se lever et de revoir Pierre. Il ne regrette pas d'avoir vécu ce qu'il a vécu. Ça l'a mis en communion avec Pierre. Il sait ce qu'il a vécu, pauvre Pierre. Le jour enfin est là. Il attend bien sagement qu'Armance vienne. Il se dit, douce Armance, je n'ai même pas assez remercié. Bonne Armance. Elle a un corps gros comme ça. Risque sa vie en aidant les autres, se prive pour eux. Elle fait plus que pour les autres que lui n'a fait avec son association. Le temps passe, il commence à faire chaud déjà. Il n'y a presque pas de fraîcheur. Il commence à entendre le bruit de la ville qui s'éveille, les pauvres gens qui ne savent pas qu'ils risquent de se donner et de donner leur âme au diable et de souffrir pour ça. Enfin, il entend le bruit d'Armance. Il se lève. Mais décide de se recoucher. Il est mieux qu'elle le voie coucher. Pour pas trop montrer son impatience. Puis, au bout d'un moment, elle a frappé à la porte. Il lui dit, rentre Armance. Elle entre, en peignoir beige, le sourire aux lèvres, et lui dit « Tu es heureux ? Tu as le visage illuminé ?» Elle lui dit « Toujours au lever du jour, je me dis qu'il va peut-être se passer de bonnes choses, des choses positives. Des fois j'ai raison, mais pas toujours, à cause de l'avenir. » Il lui dit « Tu as raison. » Elle lui demande « T'as bien dormi ?» Il lui dit « Oui, merci. Enfin, j'avais hâte de retrouver Pierre et Henri. Je peux ouvrir les volets ? Comme ça, tu verras que le jour est bien là. » « Oui. » Et elle ouvre les volets. Je vais préparer le petit déjeuner, il lui dit. J'ai pas faim, il faut manger. Et elle le laisse. Après avoir pris un petit déjeuner, elle lui a dit qu'elle travaillait. Je suis vendeuse chez une crémière qui est veuve. Veuve et un fils qui fait les livraisons. Ça me permet d'avoir un peu de fromage et du lait. Pour ce qui est des légumes, c'est Henri qui fait les marchés, il m'en apporte. Tu vois, je suis pas à plaindre. Il lui dit, moi aussi, faudra que je cherche du travail. Et lui dit, pas au début, en tout cas. Il faudra te casser, parce qu'ils ont peut-être donné ton signalement à toutes les polices. Pierre est obligé de se cacher. Tu te cacheras chez moi. Comme lui, l'après-midi. Je lui dis, ils ne doivent pas avoir mon signalement, étant donné que j'étais clandestin. Elle lui dit, on ne sait jamais. Et puis, les nouveaux visages dans le quartier, on n'aime pas ça. Bien, je te laisse. Il faut que je prépare pour aller à mon travail. Elle le laisse. Elle lui dit, avant de partir, j'ai mis au sol tes vêtements, j'ai lavé. Tu ne peux pas t'habiller avec ça, t'es trop sale. Reste comme ça. On a sonné à la porte et lui dit, je voudrais être eux, reste là. Parce que s'ils te voient, ils vont crier de joie et ameuter tous les voisins qui risquent de prévenir la police. Elle va ouvrir. Entrez. La porte se referme. La porte du séjour s'est ouverte. Pierre et Henri. Ils restent bouche bée. Gilles accourt à eux. C'est moi, Gilles. Il pleure et se plaque contre lui. Pierre dit, mais Gilles, comment ? Henri lui dit, mais c'est pas possible. Gilles les embrasse. Et dit, le vrai miracle, c'est que je te revois, Pierre. Un morceau dit, je vous laisse, je dois aller à mon travail, surtout pas de bruit. Et toi, Pierre, tu restes avec Gilles. Henri lui dit, et moi alors ? Et elle lui dit, toi tu fais comme tu veux. Gilles, donne-leur le café. Elle les quitte. Une fois qu'elle est partie, Gilles en lance encore Pierre et Henri. Il dit à Pierre, ça fait si longtemps que je te cherchais, mon petit. suis venu à Paris pour te chercher. » Pierre lui dit, « Moi aussi, après m'être évadé. » J'ai lui dit, « Asseyons-nous. » Ils s'assoient tous les trois. Gilles le questionne pour ce qu'il a fait depuis que Pierre a disparu. Gilles dit, « J'avais si peur, il voulait te sauver. Marie ne m'a pas aidé, bien au contraire. » Et puis les prêtres étaient pourchassés. Et il lui raconte sa recherche, Paris, Armance, la ville, comment il est entré, sa vie inhumaine là-bas. Pierre lui dit, « Je sais, j'ai connu ça. » Pierre lui parle de comment il a été pris, le voyage à Paris, la ville, l'horreur, sa fuite, Lyon, Marie, et son retour ici. Le hasard lui a fait connaître Armance. J'y lui demande, « Comment va Marie ?» Pierre lui dit, « Elle m'a tout dit et m'a demandé pardon. » J'y lui dit, « C'est une petite fille qui manque d'affection et c'est pour ça qu'elle fait ça. Tu vois, les gens honnêtes aussi sont pris par le démon. Et moi, après ce que j'ai vécu, j'ai même de la haine pour Jean-François. S'il y a des moments où j'aimerais le tuer, moi qui devrais pardonner et aimer, je hais et ai des désirs de crime. Même l'ambiance démoniaque m'a pris. J'y peux rien. Le démon m'a changé. Parce qu'il ne peut être qu'un démon. J'en ai honte. Je n'ai pas su me protéger de ses mauvaises idées. Je suis comme un autre. Pas meilleur et même moins bon que les autres. Je me laisse aller à l'ambiance générale. C'est terrible. Tu sais que je n'ai même pas je me suis comporté là-bas. Si tu savais, je me suis même battu avec une barre de fer. Pierre lui dit, mais ce que nous avons vécu était très fort. Moi aussi, j'étais pris par le démon à cause de ses horreurs. Et Dieu, j'ai lui dit, mais justement, avec dans des instants comme cela, on devrait prier Dieu. C'est dans ces moments-là qu'on a le plus besoin de Dieu. Pierre lui dit, mais l'ambiance nous prend tout entier. J'ai lui dit, et nous enfonce comme les autres. Henri est triste et se dit qu'ils l'ont complètement oublié. Pourtant, il les a aidés tous les deux. Les deux amis le voient et comprennent. Ils le remercient et le couvrent de baisers. Je lui dis, tu es notre bon ange. Henri est heureux. Il les embrasse. Il leur dit qu'ils doivent les laisser parce qu'il a travaillé au marché. Et s'il va trop tard, il ne peut pas aider les gens et ils n'auront pas de légumes ce soir. » Il se lève et s'en va. Gilles et Pierre restent ensemble dans l'appartement. Pierre lui dit qu'Armand c'est formidable. Gilles lui dit qu'il le sait. Ils continuent à se parler de ce qu'ils ont vécu. Puis Pierre est allé se laver. Tu comprends? Genre dans une corde, c'est sale. Mais comment faire? Gilles lui dit, ici, tu dormiras avec moi. Pierre lui dit, attention, parce que si un manche te garde chez elle, tu risques, mais elle aussi, elle risque à cause des voisins. Ils passent la journée ensemble à se dire ce qu'ils ont vécu. Pierre lui parle de son voyage jusqu'à Lyon. Gilles décide, c'est de quitter Armance. Et d'aller dormir avec Pierre dans la cave. Mais l'après-midi, ils viendront chez elle avec tous les deux. Le soir, au repas, où ils le passent tous les quatre, ils le lui disent. Elle lui dit qu'il peut rester, mais il préfère pour elle. Il préfère aller dans la cave. Les jours passent, tous les jours elle lui fait un pansement et la blessure guérit, ce n'était rien. François est dans son lit, il dort, il a le sommeil agité. Oui, il a le sommeil très agité. Il lutte dans son rêve contre une voix qui lui dit de continuer à dépraver le peuple. Il voit en rêve des images, des enlais qui crient, qui rient, qui se battent. Viol, une sarabande de démons. Ils sont au milieu des flammes et le regardent en riant, se goinfrant, forniquant, se battent, se tuent. Gilles n'en peut plus de voir des images, surtout qu'on lui dit que c'est lui qui mène la fête. Il se voit nu au milieu des gens, comme un chef d'orchestre entouré de flammes. On flagelle des gens, on les écartèle au milieu des rires. On enchaîne des gens, des deux sexes. On les viole au milieu des rires. On leur asperge du vin sur les autels. On rit, on crie. Tout d'un coup, au milieu de tout ça, Jean-François crie. Non ! Il se réveille d'un bond. Il est dans le noir, essoufflé. Je dis que ce n'est pas moi. Non, je n'ai pas voulu ça. Non. Il voit, avec effroi, près de la fenêtre, un homme qui lui ressemble. Il est habillé d'un costume noir et rit. Rit. Les éclairs, l'orage, montent son visage et ressemble à Jean-François. Jean-François lui demande « Qui êtes-vous ? » « Mais je suis toi. »« Non, c'est impossible. » L'autre rit d'un rire démoniaque et lui demande « Pourquoi est-ce impossible ?»« Je suis pas comme ça. Ce n'est pas moi. »« Si je suis toi, tiens, regarde-toi. Si tu préfères. » Jean-François lui dit « Ah, je comprends. » C'est toi qui m'avais fait tout ça. Si tu veux, mais c'est toi qui dis des gens à être ce qu'ils sont. Non, je ne le veux plus. Et pourquoi ne le veux-tu plus? Parce que c'est horrible. Ça suffit. Non, il faut continuer. Tu as fait un pacte avec moi. Non. Si. Quand? Quand tu as accepté le pouvoir. Je n'ai fait aucun pacte. Si, regarde. Il lui montre un parchemin. Si jamais il signait quoi que ce soit, pas la peine de signer, tu l'as voulu. En toi-même. Tu rêvais des pleins pouvoirs. Je t'ai donné les pleins pouvoirs et maintenant il faut payer. Je ne veux pas. J'ai jeté le pacte. N'aie pas peur. C'est peu de choses. Et qu'est-ce que c'est? Tu me donnes ton peuple et tu auras tout. Quoi tout? Qu'est-ce que ça m'apportera tout ça? Le pouvoir absolu. J'en veux plus. Tu ne peux pas refuser. Parce qu'une partie de toi le veut. Non, c'est faux. Avant j'étais comme ça, mais maintenant. Et que veux-tu? On change, si tu veux. Non, je ne le veux. L'autre s'approche de lui et lui dit « Regarde toutes les richesses que tu vas avoir. » Il monte des tas d'or et de billets. « Non, ça ne m'intéresse plus. » L'autre lui dit « Alors, si tu refuses, tu vas retourner d'où tu viens. » Jean-François se trouve à la rue. Une rue déserte, sale, pavée. Il est en guenille, affin, très fin. Mais où suis-je? Qu'est-ce que je fais là? L'autre est près de lui et lui dit « Tu es retourné à ton point de départ. Rien n'a existé. Tu n'as jamais été roi. » Jean-François a faim, soif, mais il n'a rien. Pas un sou. Le jour est là. Je trouve au milieu des gens. Il demande un peu d'argent. On lui rit après. Voit l'immeuble d'Armance. Il entre dans l'immeuble. Sonne à la porte. C'est elle qui lui a ouvert. Elle demande « Que veux-tu ?»« Je ne sais pas. Entre. » Elle lui dit « Tu as l'air bizarre. » Il lui dit « J'ai fait un rêve étrange. » Elle lui dit « L'on fait toujours des rêves étranges. » « Non, là, c'était très étrange. J'étais moi sans être moi. Et il y avait autour de moi des gens horribles. » Elle lui dit, « Comme dans les rêves, n'y pense plus. » Il lui dit, « J'ai faim. » Elle lui dit, « J'ai pas grand-chose. Viens. » « Assieds-toi. » Je n'ai qu'une soupe. Ça ira. Il trouve la soupe amère et lui dit, c'est la soupe du peuple, mais qui est honnête. Il lui dit, oui, honnête. Après avoir mangé, il lui dit, je peux dormir ici? Non, je ne peux pas. Bien, je m'en vais. Je te laisse. Et il la quitte. Il retrouve la nuit. Oui, il retrouve la nuit. Les rues sales et désertes. Alors, que vas-tu faire maintenant? Il sursaute, voit son double. Son double lui dit, tu refuses mon pacte? Tu vois, c'est bien la vie d'un honnête homme. Regarde-toi. Il lui montre dans le reflet d'une vitrine. Il se voit maigre, maigri, bien maigri, sale, sale. Un vrai pouilleux, l'autri. Jean-François continue sa route. Il a la tête lourde, se sent fatigué. Réussit à entrer dans une allée et à dormir. Il est réveillé par le bruit de la ville. Il sort de l'allée. Il a faim, soif aussi, au milieu de la foule, on le bouscule, tombe à terre, a des difficultés à se relever.
Et Bruno, il a dit qu'il m'amènerait dans ma chambre, il n'y a pas pensé.
Voit un marché, demande si on ne peut pas l'aider, on lui rit à la figure. T'es bien trop laid, mon vieux. L'autre qui est près de lui rit, lui dit, tu vois, l'honnêteté, ça rend laid, fiche-moi la paix, j'y arriverai bien, tout seul, sans ton aide. L'autre rit, Jean-François se sauve en courant, on lui fait un croche-pied, il tombe à terre, les gens rient, il se relève et se sauve en courant. La nuit est là, il a sommeil, très sommeil. Il sonne chez Armance, elle n'est pas là. Traîne dans les rues, fatigué, faim. Entre dans une allée et s'y allonge derrière les escaliers.
Calme-toi. Tu n'as aucune raison d'avoir
peur. Il est réveillé. Il entend du bruit. Et des cris. Vite. Il se sauve de l'allée en courant. On vient de tuer une femme dans l'allée. On a crié, ça derrière lui. Il panique et se met à courir. Il sent qu'on lui court après. Lui court, il a peur des gens. Il se dit, ce n'est pas moi. C'est même pas moi. Il est au milieu de la foule. L'autre lui crie, c'est le démon. Arrêtez-le, à l'assassin. Il sent qu'il est pris. Il ne peut se défendre. Il est dans une rue étroite. On lui fait un croche-pied. Il tombe à terre. On le relève. Il est entouré de gens qui crient. Assassin, assassin! Il est soufflé, à peur. Il veut se défendre, mais ne le peut. On lui fait un croche-pied. C'est le démon qui l'a fait. Les gens veulent le tabasser. Et regarde. Et malgré lui, lui supplie d'arrêter. L'autre lui dit, tu ne veux plus de mon pacte, débrouille-toi. Il est bousculé. On le cogne, on le maintient bien. Une voiture de police est arrêtée. Bousculade. La police est près de lui. Un policier demande, que se passe-t-il? Un homme dit, il a tué une femme dans une allée. La voiture dit, non, c'est faux. Je vous jure que c'est faux. Le policier dit, allons, on l'emmène au commissariat et on verra tout ça là-bas. L'on crie, c'est lui l'assassin. Il était dans l'allée. Le policier dit, on l'amène au commissariat et on verra. On le pousse dans une voiture de police, le pauvre Jean-François. Il est assis au milieu de deux agents. La voiture est partie. Je suis là au milieu des gens. Un des agents dit, bien sûr de la culpabilité de cet homme. Ça va être facile pour l'écrouler. L'autre lui dit, oui. La voiture s'est arrêtée. On le sort, il rentre au commissariat. On le pousse. Dans un bureau, il y a un petit homme. Costume gris, il demande, « Que se passe-t-il ? » Un agent lui dit, « On vous amène celui-là. Il a été pris sur le fait d'avoir tué une femme dans une allée. » Le commissaire demande, « Et vous avez vu le cadavre ? Où il est ?» Le policier lui dit, « Non, mais on va y aller. » Il a failli. C'est clinché. C'est pour ça qu'on l'a pris. Le commissaire regarde Jean-François et lui demande, « Alors, vous reconnaissez les faits ?» Jean-François lui dit, apeuré, « Non, je vous assure, ce n'est pas moi. Nous verrons. » On dit toujours qu'on est innocent. Après, on craque. Toujours la même chose. Bien, bon, nous allons commencer par le début. Nom, prénom, âge, carte d'identité. « J'en ai pas. » Le commissaire lui dit, « Pas de carte d'identité ?» Et vous êtes innocent? Un crâne-savate, encore un feignant, qui cherche à voler les sacs à main des pauvres femmes, je vois. Non, je vous assure, monsieur,
Bon,
ça va, demanda l'agent. Est-ce qu'il y a des témoins? Oui. Faites entrer le premier témoin. Et on fait entrer un homme gros, rougeau, commissaire dit. Alors, vous avez vu l'homme attaquer la pauvre fille et la tuer?
Non, je l'ai vu sortir de l'allée. D'ailleurs, c'est pas la première fois qu'on le voit entrer dans les allées et que des femmes se font attaquer, commissaire dit. Ah! Bon, nous avons pris un tueur en série. Oui, monsieur le commissaire. Il traîne toujours par ici. Et il a une drôle de tête. Tête d'assassin. Il faut le guillotiner, le commissaire dit. Il faut le juger, l'autre dit. Pourquoi? Parce qu'il est coupable. C'est la loi.
L'homme dit.
La loi est toujours de leur côté, le commissaire demanda à Jean-François. Alors, vous reconnaissez les faits?
Non, je vous assure, je vous jure, le commissaire dit.
Amenez-le au trou.
On le met, Jean-François, dans une cellule. Il a peur. Il se dit qu'il est innocent. Une femme est dans la cellule avec lui, lui dit.
T'es l'assassin des filles?
Non, je vous le jure, elle lui dit.
Je te crois pas, tu as la tête d'un assassin.
Il reste une journée dans la cellule. Puis, on le mène au commissaire qui lui dit. Commissaire qui lui dit.
Il y a plusieurs témoins qui l'ont reconnu comme le tueur.
Mais je vous jure, je suis innocent.
Vous feriez mieux, c'est de dire la vérité. Tout le monde vous a reconnu. Alors,
on met dans un fourgon, voiture de police.
Une foule immense entoure le fourgon, l'ouvre. L'on crie « à mort l'assassin !» La police sort avec des armes à la main. La porte du fourgon est ouverte. On a juste le temps. La foule tire Jean-François du fourgon, le pousse. Les policiers n'ont pas le temps d'empêcher la foule de le défendre.
Il a entendu une explosion. C'est le fourgon qui a explosé. Jean-François, apeuré, des gens qui hurlent, des cris. On lui dit à mort, on le tape, on le tire. Il faut le tuer. Je suis innocent, je suis innocent. On lui donne des coups de pied. À mort. Non, pitié, à l'aide. On se penche vers lui. Thank you.
C'est lui-même qui lui dit « Tu veux te sacrifier pour cette vermine ? Regarde ce que c'est que le peuple. Et tu refuses mon pacte ? Eux n'existent pas. » Ce qu'ils cherchent, c'est le plaisir, c'est le diable. Ils sont prêts à te tuer, malgré que tu sois innocent. Ils n'ont pas de pitié. Alors toi, Jean-François lui dit non. Et là, au milieu de cette foule qui lui tape dessus, l'empêche de se relever. Il a mal de partout, ça rit, ça crie. Jean-François a mal, a peur. On le tape. Le bat à mort. Mais Jean-François fait tout pour éviter les coups. Mais ils sont tous dessus lui. Alors il se met à hurler, à haïr cette foule, ces gens. Il se dit qu'ils ne méritent pas que je les épargne. Non, vous êtes trop cruels et bêtes. Tant pis pour vous. L'autrui. Et rit et le tape avec les autres. Jean-François dit, c'était le pacte. Tout d'un coup, la rue s'est vidée. Il se relève. Sans lui-même, il tend le parchemin avec une plume. Il la signe. Son démon lui dit, j'avais raison, il ne mérite pas la pitié. Fais-en ce que tu veux en faire pour qu'il soit à moi. Il ne mérite pas la pitié. Ils doivent appartenir à moi. Oui, tu les auras. Je vais les déprouver pour qu'ils soient à toi. Et Jean-François sent un grand soulagement. Il se réveille dans son lit, rit et se dit qu'il a fait un drôle de rêve. Se sent courbaturé. Est-ce un rêve ? Se lève. Voit sur son secrétaire un parchemin. Soupire. Le met dans un tiroir. Un tiroir de son secrétaire. Il se dit que les autres sont plus cruels que lui. Et puis, ils sont déjà prêts pour être donnés aux démons. Vous
Oui.
Il n'y a qu'Henri et Armance qui travaillent. Cela ennuie Gilles. Il aimerait travailler. Armance lui dit « Arrête de te morfondre. Puisque tu veux travailler, je vais t'en trouver, moi, du travail. » Gilles, tout heureux, lui dit « C'est vrai ?» Et lui dit « Oui. » Mais tu risques de te faire repérer. Et puis le travail n'est pas du tout repos. J'ai lui dit, je suis prêt à tenter le coup. Elle lui dit, j'ai trouvé un travail, tout ce qu'il y a de plus tranquille, enfin. C'est une façon de dire, c'est un vieux. Nous avons présenté dans la série L'écran radiophonique un scénario original de Julien Jean-Pierre, Si Mara, production, mise en scène, Julien Jean-Pierre.